Et donc, nous avons ensuite la fixation du statut du cadre du personnel mis à disposition du bourgmestre et des échevins, comme le veut la nouvelle loi communale à l'initiative du ministre ayant tutelle sur les pouvoirs publics, M. Clerfailly, a imposé l'adoption par les communes dans les 3 mois qui suivent leur installation, de clarifier la situation du personnel des cabinets attachés aux échevins, échevines, présidents et présidentes du Conseil de l'Action sociale, non, mais en tout cas pour l'administration communale. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à formuler, Madame la secrétaire.
Je peux peut-être simplement ajouter qu'effectivement, c'est une application de la nouvelle loi communale, une nouvelle disposition. Nous sommes partis du principe que le personnel de cabinet bénéficie de l'application des mêmes dispositions que les membres du personnel communal, sauf disposition énoncée dans le texte qui vous est présenté. Ce statut particulier a été également exposé en concertation syndicale. Donc je précise que le cadre qui est fixé est un cadre théorique et maximal. Dans les 4 pages qui vous sont présentées, donc qui fixent le statut, le cadre, il est rédigé ainsi. Donc l'article 1 reprend les définitions générales. L'article 2 expose le champ d'application du statut. Et donc exprime ce fait que, sauf disposition contraire explicite au sein du texte, il est fait renvoi aux dispositions communes applicables à tout le personnel de l'administration. L'article 3 rappelle les incompatibilités légales qui sont définies par la nouvelle loi communale. L'article 4 fixe la composition maximale des cabinets, donc le cadre. Et les articles 5 à 8 sont des dispositions particulières au personnel de cabinet quant au mode de recrutement, par exemple, aux règles d'évaluation, aux heures supplémentaires, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le texte lui-même. Je n'ai pas vu
qui avait trouvé la main. Monsieur Frétu.
On va un peu partager les plaisirs. J'avais plusieurs questions concernant donc, les statuts des membres des cabinets, notamment la question des primes qui ne sont pas abordées, je pense, dans les statuts. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être un peu plus transparent. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des primes pour les membres des cabinets? Je pense que par le passé, il y en avait. Donc, voilà, ça, c'est ma première question. Puisqu'on dit que, finalement, les membres des cabinets ont les mêmes dispositions que les membres du personnel. Donc, je trouve que c'est un élément qui peut être intéressant. Et alors, ma deuxième question... Est-ce qu'il y a eu des passages au grade supérieur entre les mêmes personnes dans l'ancienne majorité, enfin, qui est la même majorité, mais l'ancienne législature et la nouvelle législature, est-ce qu'il y a eu des passages au grade supérieur? Si oui, lesquels et pourquoi et selon quelle procédure aussi dans l'esprit où les membres des cabinets doivent avoir les mêmes règles que les membres du personnel? Je me demandais alors comment un membre du personnel peut aussi faire pour avoir un passage au grade supérieur.
Peut-être vous répondre sur la théorie. Donc si vous prenez l'article 6 du texte, le cinquième alinéa, vous verrez que donc le personnel de cabinet perçoit effectivement l'allocation prévue par le statut pécuniaire, qui n'est pas cumulable avec la prestation d'heures supplémentaires. Donc, le personnel de cabinet est payé, sa rémunération est fixée conformément au barème régional, comme pour tout le personnel communal, et perçoit en plus une allocation prévue au statut pécuniaire.
Désolé, j'ai pas bien compris en fait.
Donc la rémunération de base, c'est la rémunération au barème du personnel communal. Et le personnel de cabinet perçoit en plus une allocation prévue au statut pécuniaire.
C'est ça, donc une, voilà, c'est ce qu'on appelle les primes, hein, c'est ça.
C'est une allocation. Le pécuniaire est arrêté d'application sur tout le personnel, l'ensemble du personnel. Tout à fait.
Excusez-moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des primes, oui ou non, et à combien s'élèvent-elles ?
C'est la madame répond qu'il y a une prime qui est prévue et qu'elle est prévue au statut pécuniaire. C'est clair, c'est français.
Est-ce qu'on peut connaître les montants ? Mais
il est accessible, ce statut pécuniaire.
Ah ben, je pose la question.
Vous demandez à voir le statut pécuniaire, il n'y a pas de souci, c'est une pièce transparente. Il n'y a rien de secret là-derrière. Vous avez l'air de faire un mystère. Le statut pécuniaire est clair. Non, il ne faut pas semer le doute là où il n'y en a pas. Il y a un statut pécuniaire et il y a un montant arrêté pour la prime. Elle me regarde innocente, oui. Il n'y a rien de mystérieux. Et est-ce qu'il y a des grades qui ont changé ? En fait, on a prévu ici un cadre. Si je dois m'exprimer sur les membres identifiés du cabinet, je le ferai à huis clos parce que je ne vais pas commencer à évoquer des situations personnelles comme ça sur la rémunération des membres de manière individuellement notée. Mais oui, ils répondent aux conditions d'accès, d'ancienneté pour pouvoir promériter au grade. Ceci dit, j'ai eu l'occasion à cet exercice de faire la comparaison avec les pratiques existantes dans d'autres communes, à Forêt, à Ixelles, à Bruxelles-Ville. Et donc, c'est vrai que M. Clerfailly, qui était très, très vigilant sur la transparence des cabinets des communes, mais finalement un peu moins sur les cabinets régionaux, ça c'est une expression personnelle, effectivement souhaité qu'on clarifie. Et donc, c'est vrai qu'en regardant, par exemple, la commune de Ixelles, on voit des grades A7, des grades A6, des grades A1, 2B1, 1B1, 2C, ou ISA6 pour les échevins, ça fait 23 ETP. Pour Ether B, on a un A6, un A1, un B, 2C, 2D, puis aux échevins, des B, des C, des D, ça fait des calculs avec des A1, A6, donc c'est des questions d'enveloppe. Et donc, en fait, c'est un cadre qui est arrêté projeté dans lequel peuvent se retrouver les conseillers par rapport aux situations antérieures. On est grosso modo en fonction des personnes qui ont quitté la fonction et celles qui l'ont reprise en cours de législature précédente. Mais la situation précédente est peu comparable puisque les collaborateurs de cabinet exerçaient aussi des fonctions dans l'administration en même temps. Et c'est vrai qu'au moins ici on clarifie, donc ils avaient des grades de chef de service et de mélanger. C'est vrai qu'on a arrêté cette pratique à mon installation, mais au moins ça permettait d'utiliser des collaborateurs efficace aussi pour faire fonctionner l'administration et pas juste pour le fonctionnement d'un cabinet. D'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup l'usage d'attachés de cabinet à Saint-Gilles qui soient attachés à la seule et grande gloire de leurs représentants politiques pour faire des postes, mais surtout des travailleurs qui collaborent au bon fonctionnement de l'administration, à essayer de faire avancer les dossiers et accompagner l'action des mandataires. Et donc on continue à s'inscrire dans cet esprit. C'est d'ailleurs pour ça que le statut présent prévoit qu'ils ont les mêmes modes opératoires. C'est vrai que pour des collaborateurs qui parfois ont des grades inférieurs à des collaborateurs de l'administration et qui restent non-stop à mes côtés, parfois c'est vrai que c'est assez frustrant et ils se font parfois rappeler à leur grade, ce qui n'est pas facile toujours en termes de relations. Et parfois certains mandataires d'ailleurs les secouent comme des pruniers alors qu'ils sont parfois d'un niveau de l'administration qui ne leur vaudrait pas ce genre d'attitude. Donc c'est vrai que ce n'est pas une fonction toujours simple et qui n'a jamais été très très valorisée à Saint-Gilles. Au moins ce cadre-ci précise les choses. Je tiens à préciser que le caractère relativement précaire de leur statut, puisqu'à la fin de la mandature ils sont licenciés sine die sans indemnité, sauf si évidemment ils sont détachés de l'administration et alors ils peuvent retrouver leur pristine situation. Mais effectivement, il y a des communes où ça a eu lieu maintenant au changement de législature, où des collaborateurs se sont retrouvés sans job du jour au lendemain. On a plusieurs cas de figure qui se sont déterminés et ça n'est pas toujours le cas à d'autres niveaux de pouvoir. Mais en tout cas, il y a des arrêtés de nomination à tous les niveaux de pouvoir qui sont faits. Les gens sont remercier à la fin de la mandature, sans nécessairement les parachutes que d'aucuns prétendent. Et la récente actualité des communes montre que même les mandataires se sont retrouvés dans les mêmes situations, mais donc pas de situation outrageusement privilégiée. Et vous aurez remarqué la modestie des grades proposés. Si vous faites un benchmarking de ce qui est pratiqué dans d'autres communes, vous verrez que nous avons été raisonnables. Et donc il n'y a pas eu de volée de promotion avec la création de ce statut. Je vous en prie.
Je vous remercie. Pour ma part, j'ai quelques problèmes avec la proposition et que je voulais vous faire part de mes remarques. Je comprends que le collège prévoit donc un cabinet composé de 9 personnes, soit une augmentation par rapport à ce qui était sous la précédente législature, puisqu'on avait 6 équivalents temps plein, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez. Et j'ai cru comprendre qu'on justifiait cette expansion en se comparant aux cabinets d'autres communes comme Bruxelles, Ixelles ou Etterbeek. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois, vous aimez faire un benchmarking, mais il me semble qu'il faut encore que le benchmarking, soit pertinent, puisque ce sont des communes qui, en termes de population, sont 2 fois, voire 3 fois plus grandes que celles de Saint-Gilles. Et en termes budgétaires, ces mêmes communes ont un budget qui est le double, le triple, voire 8 fois le budget, pour ce qui concerne en tout cas Bruxelles, 8 fois le budget de la commune de Saint-Gilles. Donc en réalité, votre benchmarking n'est pas tout à fait pertinent, puisque vous comparez des pommes et des poires. Et la réalité, c'est que, tenant compte de ces critères, à mon sens, ce cabinet est manifestement disproportionné. Je vais vous citer quelques autres exemples pour votre benchmarking. Par exemple, si vous prenez Uccle, qui est 2 fois plus peuplé que Saint-Gilles et en nettement meilleure santé financière, leur cabinet ne
par
compte que...
Par la richesse de ses habitants.
Je vous prie de me laisser terminer mon propos, ce serait fort aimable. Il ne comporte que 4 membres, à Auderghem, à Berghem-Saint-Agathe, il y a seulement 2 membres. La commune de Jette, qui est plus comparable à Saint-Gilles en termes de population et de budget, elle a décidé récemment de réduire le cabinet. Ils sont passés de 10 personnes à 7 personnes. Et nous, on fait donc exactement le contraire, on augmente. Et ça, je trouve que ça ne se comprend pas. Et ça ne se comprend d'autant pas que, alors qu'on va bientôt faire face à des défis majeurs qui vont nécessiter toutes nos ressources. Donc, je parle des besoins criants du CPS, des services de police et de l'administration. Dans une période budgétaire 2025, on n'a toujours pas clôturé le budget, ça va être très difficile. Et j'estime qu'élargir le cabinet et détourner finalement des ressources qui sont très précieuses et qui pourraient être plus utiles pour la véritable mission de l'administration n'est pas une bonne idée. Et même en supposant que le coût budgétaire pourrait être neutre via le détachement, ce sont quand même toujours autant d'agents qui sont soustraits à l'administration, et donc celle-ci s'en trouvera forcément affaiblie, puisqu'ils ne sont plus dans l'administration, mais dans le cabinet. Et donc c'est pour ces raisons que, pour ma part, je m'oppose résolument à un cabinet à 9 personnes. Je pense que, vous le savez, au niveau fédéral, au niveau régional, le temps est à la réduction des cabinets. C'est dans l'air du temps, on essaie de réduire. Et non pas de les augmenter, réduire pour renforcer l'administration plutôt que l'inverse. Et donc, je voterai contre cette disposition. Je vous remercie.
Donc, je me remets très vite, parce qu'en fait, je n'aime pas qu'on utilise de manière partielle les exemples et les citations. Donc, c'est vrai que quand on parle d'un cabinet de 9 personnes, on va donc parler de cabinet d'échevin pour 3 échevins d'un côté et pour 4 de l'autre, d'un collaborateur à 2 et d'un collaborateur à 1, et d'un cabinet avec 5 collaborateurs comme par le passé. Et donc, en fait, pour pouvoir travailler dans un changement comme celui-là, je n'y vois pas le caractère somptueux que vous y voyez, surtout qu'il s'agit d'un cadre qui n'est pas encore doté. Quand je vois une commune de forêt, effectivement, je pense que la comparaison budgétaire est assez semblable, on n'est pas dans quelque chose de différent, mais les grades sont plus élevés. Donc effectivement, avoir une collaboratrice ou un collaborateur niveau C n'est pas la même chose qu'avoir un collaborateur niveau 1. Donc si vous dites comparer des pommes et des poires, les ETP n'ont pas la même rémunération.
Je n'ai pas parlé de forêt.
Monsieur, les députés, les comparaisons. Anderlecht, où vous êtes en majorité, c'est vrai qu'on a un A7 et un C, on a des A5 pour les échevins et des B. Donc votre comparaison sur les pommes et les poires, vous avez raison. Par exemple, monsieur le bourgmestre d'Ixelles, il a un A7, un A6 et chaque échevin a un A6. Donc effectivement, dire que nous sommes somptuaires, c'est en fait une comparaison fallacieuse que vous faites. Et sur une commune comparable, je pense qu'Etterbeek est effectivement assez comparable. Et le cabinet du bourgmestre comporte un A6, un A, un B, 2C, un D. Et les échevins ont 3,5 temps plein. Donc on est à 9,5 temps plein à Etterbeek. Donc on est dans quelque chose de tout à fait comparable. Ceci dit, c'est assez vain d'essayer de vous convaincre. Je vois d'ailleurs qu'à Jette, on parle d'un A6 et d'un B3. Et les 8 échevins ont 4 B3 mutualisés. Et qu'ils peuvent répartir en différentes enveloppes, ils sont quand même 6. C'est vrai que par rapport à la précédente législature, au moins les échevins pourront avoir aussi quelqu'un destiné à accompagner. Il s'avère que notre commune, malgré sa petite taille, a tous les enjeux d'une grande. Et donc c'est vrai que Molenbeek, par exemple, a 15 équivalents temps plein. C'est vrai que la commune est beaucoup plus grande. Mais là, il y a un attaché de presse. Ce dont j'aurais peut-être besoin pour répondre à toutes les allégations fournies à la presse sur base de notre ordre du jour. Voilà. Je propose que nous procédions au vote puisque nous avons eu un débat contradictoire.
Vous pouvez voter. Voilà, il y a donc 18 votes pour, 3 contre et 7 abstentions. Donc le point est approuvé.